Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, chapitre 3, versets 20 à 24. On termine le chapitre 3, autrement dit. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui « De la sentence divine de mort jaillit la vie ». Alors, on a vu la semaine dernière que le Seigneur avait donné la sentence de mort à cause de la désobéissance à l'ordre que le Seigneur leur avait donné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que ce qui avait résulté de ça, c'était que Dieu avait permis que la mort entre dans le jardin. Il y avait seulement deux personnes à cette époque-là. Mais après ça, toute leur génération, tous leurs descendants héritaient de cette nature pécheresse que nous avons tous à cause de ça et qui a des conséquences beaucoup plus graves qu'on peut porter, qu'on peut penser au premier abord. Alors, c'est ce qu'on avait vu un petit peu dans les leçons précédentes, alors la sentence divine de mort, mais de ça va jaillir la vie. D'après un peu ce que le Seigneur dit dans les versets 20 à 24. Alors, le chapitre 3 du livre de la Genèse est d'une importance capitale pour bien saisir l'importance de l'entrée du péché dans le monde, ses conséquences tragiques et l'introduction de la solution divine. Je dirais que même c'est un chapitre clé des Écritures, Genèse 3, parce que comment peut-on comprendre l'état spirituel d'une personne, sa perdition, si on ne comprend pas d'où ça vient. Ça vient de là. Alors, à quelque part, Genèse 3 est vraiment un chapitre extrêmement important des Écritures et pour nous faire comprendre d'où, comment est entré le péché dans le monde et comment Dieu a pourvu à une solution par la prophétie qu'il enverrait éventuellement un Messie pour nous sortir de cette fâcheuse position-là. On avait vu dans la leçon de la semaine dernière comment Satan, incarné dans un serpent, et qui est définitivement l'ennemi de l'âme des hommes, avait procédé pour provoquer la chute de l'homme. Alors, les Écritures nous enseignent qu'il est fort rusé. Alors, il n'a pas changé. Autant il était rusé à l'époque, autant il l'est encore aujourd'hui pour nous détourner des voies de Dieu de toutes les manières possibles et imaginables. Il est rusé dans ses méthodes. On avait regardé un petit peu les méthodes de Satan pour quand il travaille. Alors, on avait vu que pour le cas d'Adam et Ève, c'était d'avoir approché sa victime lorsqu'elle est seule. Remarquez qu'il n'a pas approché Ève alors qu'elle était avec son mari. Il l'a approché alors qu'elle était seule. Il l'a ensuite... elle était loin de son mari et proche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une autre méthode qui semble inoffensive à première vue est celle du questionnement. Quand quelqu'un vous pose une question, à première vue, ça n'a pas l'air. Pose une question. Dieu a-t-il réellement dit? Alors, ces méthodes sont souvent ambiguës. On avait vu que c'est... Au cours de l'histoire, il n'y a rien qui a changé. Soit qu'il ajoute à la parole, soit qu'il enlève à la parole, ou soit qu'il falsifie la parole. Il ajoute, et ensuite il nie. Et surtout, plus loin que ça, il va loin dans son blasphème, il va questionner la bonté de Dieu. Il laisse sous-entendre à Ève que Dieu l'a privé de quelque chose en lui donnant pas ce que lui prétend qu'il est capable de lui donner. Alors, l'erreur d'Ève, bien entendu, ça a été d'engager une conversation avec lui. La même conversation... Moi, je me souviens d'avoir déjà entendu quelqu'un qui m'a dit il n'avait pas peur de parler à Satan. Un chrétien, il y a plusieurs années, quelqu'un qui m'avait dit ça, il a dit je pense que tu ne devrais pas t'embarquer sur ce terrain-là. On ne parle pas à Satan. Parce qu'il est plus fin que toi, Il est plus intelligent que toi, il est plus rusé que toi. Alors, on n'engage pas de conversation avec lui, excepté la seule conversation que tu peux dire, c'est « Attends une minute, je vais aller chercher le Seigneur. » Et là, il se pousse, bien entendu. Alors, elle s'est laissée, elle a engagé une conversation, elle a commencé à vaciller et à se laisser entraîner par les fausses promesses de Satan pour ensuite chuter lamentablement. Et elle ne s'est pas contentée de chuter elle personnellement, elle a incité son mari à chuter avec elle. Et tout cela, les conséquences de tout cela sur nos propres vies, sur tout ce qu'on voit autour de nous, aujourd'hui, ça continue. J'ai rencontré un ami cette semaine, un ami d'enfance, t'as pas mon passeport, puis je vois que la personne est vraiment éloignée du Seigneur. Mais à quelque part, quand on est rendu à 69 ans, lui c'est à son cas, 69, moi 70, on est à peu près de la même âge. Puis de penser que s'il décède là, il s'en va dans un lieu qui s'appelle l'enfer, pour l'éternité. On parle à des personnes comme ça qui sont peut-être à un cheveu de traverser. Il suffit qu'ils fassent une crise de cœur, il suffit qu'il y ait un accident, il suffit que... Et on a plein de monde comme ça autour de nous qui sont sous l'empire de Satan à cause de la chute d'Adam et d'Ève. Et on se devrait, on parlait de la prière ce matin, je pense qu'on a intérêt à prier pour que le Seigneur nous enlève notre peur de témoigner. On a tous peur. Et je m'inclus, là. Je n'essaye pas de vous dire, oh, vous autres, vous ne témoignez pas. Puis moi, je témoigne. Non, ça ne marche pas de même. On est tous dans le même bateau. On a tous peur. On a tous peur d'être jugés, d'être rejetés, d'être méprisés. Mais à quelque part, le Seigneur lui-même, si vous regardez Matthieu 28, ce qu'on appelle la Grande Commission, qu'est-ce qu'il nous a dit de faire? Aller de par le monde, parler de lui, parler qu'il est le libérateur, qu'il est le sauveur. Il faut le demander. C'est juste par la prière qu'on peut obtenir ça, que Dieu nous libère de nos lâchetés, de nos paresses, de notre peur de témoigner. Il y a juste la prière qui peut nous sortir de ça. Si on le fait, puis qu'on est sincère, voyez-vous, on ne peut pas mentir à Dieu. Dieu connaît notre cœur, il nous lit comme un livre ouvert. Alors, si on demande quelque chose, puis qu'on est sincère, voyez-vous, il parlait de la veuve est revenue. Disons que tu lui demandes aujourd'hui, puis tu regardes demain, tu es encore aussi peureux. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu reviens à la charge. Jusqu'à ce qu'il te le donne. Bien sûr, quand on demande des grâces à Dieu, il faut être dans un état spirituel le plus proche de lui possible et confesser nos péchés. Il ne faut pas oublier que l'Éternel peut refuser des fois parce qu'à cause de l'état de notre âme, il faut demander au Seigneur de nous donner... de confesser nos péchés, de se rendre compte qu'on en fait pas mal plus souvent qu'on pense. Dans nos pensées, examinez votre vie de pensée d'une semaine. Vous allez voir qu'il s'en est produit des péchés dans votre tête, que vous n'avez peut-être pas commis dans les actions, mais la tête, elle, elle fonctionne. Il s'en passe des affaires dans la boîte à poux, comme on dit. Beaucoup de choses qui se produisent dans notre vie de pensée, qu'on se doit de confesser. Quand on se rend compte qu'on pêche dans notre esprit, là, il faut confesser à Dieu. Seigneur, je viens de pécher en pensée. Dans nos paroles, combien de fois dans le cours d'une journée on pêche dans nos paroles, on pêche dans nos actions, et une façon qu'on pêche, qu'on ne se rend pas beaucoup compte comme chrétien, même des vieux chrétiens, c'est le péché par omission. Dieu nous commande toute une multitude de choses dans les Saintes Écritures. Et ne pas faire ce que Dieu nous commande, c'est un péché. Un péché d'omission, c'est de ne pas avoir obéi à ce que Dieu te commande. Et quand vous regardez les Écritures, c'est juste des commandements d'un couvert à l'autre. Alors, on ne se rend pas compte jusqu'à quel point on pêche par omission. Et les Écritures vont encore plus loin que ça. Elles nous disent qu'on pêche par des fautes secrètes. Autrement dit, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on pêche, on ne s'en rend même pas compte. Hey, c'est-tu assez grave? On est-tu... ancré dans le péché a-tu une puissance sur nous? On pêche, puis on s'en rend pas compte. Alors, ça fait cinq formes de péché. Pensée, action, parole, omission, faute secrète. Alors, quand il faut se préparer, il faut aller, quand on veut demander des grâces à Dieu, il faut confesser nos péchés. Il faut le faire souvent, parce qu'on pêche beaucoup. Malheureusement, je me rassure pour pécher du tout. J'aurais un piton, là. Puis il dirait, pèse dessus, puis tu ne pêcheras plus. Et je pèserai dessus, tout de suite, tout de suite. Mais même, il n'a pas de piton. C'est-à-dire que le piton, c'est que le Seigneur veut que durant notre vie terrestre, notre vieille nature continue à nous habiter, puis qu'on a un moyen de la vaincre. Et c'est la mortification du péché par le Saint-Esprit. Alors, il faut le demander. Si on ne le demande pas, on ne l'a pas. Et si on n'a pas la victoire sur le péché, c'est fort probablement parce qu'on n'utilise pas les moyens que les Écritures nous disent, parce que les Écritures nous disent qu'on peut avoir la victoire sur le péché. Alors, on avait vu qu'il y avait eu une sentence officieuse. La sentence officieuse, c'est que dès qu'ils ont eu péché, ils se sont rendus compte, les yeux se sont ouverts, puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout nus. Autrement dit, ils ont rendu compte, il y a quelque chose qui se passe. Puis après ça, il y a eu la sentence officielle. Là, Dieu appelle d'abord Adam, là-bas, on l'a vu la semaine passée. Ensuite, il lui dit qu'il était le chef, et il lui offre une défense inexcusable. On a vu que c'était un pattern chez l'être humain. « Pas ma faute, à la faute de ma femme. » Puis quand il a accusé sa femme a dit « Pas de ma faute, c'est la faute du serpent. » Alors, il faut beaucoup apprendre de cela. Nos premiers parents ont tombé dans le panneau, et nous, on est pareil. Dès que quelqu'un nous accuse de quelque péché que ce soit, de quelque manquement que ce soit, c'est jamais toi. C'est pas de ma faute. C'est la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Alors, quelque part, il faut apprendre à avoir de l'humilité et à reconnaître qu'on pêche souvent et qu'il faut le demander à Dieu de nous enlever ces choses-là. Alors, on avait vu que le Seigneur avait interrogé Ève ensuite, qu'elle aussi, elle avait eu une mauvaise attitude, qu'elle avait voulu faire porter sa faute sur le serpent. Puis, le Seigneur inculpe le serpent et lui donne sa sentence, qu'il va marcher sur son ventre, il va manger de la poussière tous les jours de sa vie. Et il lui annonce prophétiquement, dans le fameux passage de Genèse 3:15, qu'il va envoyer une solution au problème qu'Adam et Ève ont laissé entrer dans le monde. Et c'est vraiment on l'appelle ce passage-là, dans les livres de théologie, le protévangile. Donc, c'est la première mention de l'évangile des Écritures. Il y a eu le problème, puis le Seigneur n'a pas tardé 2 siècles avant de donner une réponse. Il a donné tout de suite la solution. Et la solution, pour ceux de l'Ancien Testament, c'était de croire à la prophétie que le Seigneur disait qu'il enverrait le Messie pour régler leur problème de péché. Ça, c'était pour ceux de l'Ancien Testament. Croire au Christ à venir. Pour ceux du Nouveau Testament, c'est de croire au Christ venu. Pour nous, on sait qu'il est venu. On n'est pas comme les Juifs qui attendent encore sa venue. Alors, il lui dit, le couple se voit donner une sentence respective. Pour Ève, l'enfantement dans la douleur, la soumission et la domination par son mari. Pour Adam, la peine pour obtenir sa nourriture. Que la terre aura le dernier mot. Autrement dit, il dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et aussi par la mort. Et on sait que la mort qui est annoncée dans les Écritures, quand il lui dit certainement tu mourras, quand on lit l'ensemble des Écritures, on sait que ce n'est pas uniquement la mort physique. Oui, ce péché-là a fait en sorte que la mort physique a été introduite dans le monde, mais il y avait plus que la mort physique. Il y avait la mort spirituelle. Parce que les Écritures nous disent que l'homme qui vit au monde actuellement, là, il vit au monde pécheur et il est déjà condamné à l'enfer à cause du péché d'Adam. Dans Romains 5:12, ça se dit qu'on était en Adam et qu'on péchait en lui. Comment? C'est bien difficile de comprendre pourquoi, là, mais le Seigneur nous tient responsables d'avoir été présents, d'avoir été participants à la décision d'Adam et d'Ève avec le péché. Alors, la mort physique, la mort spirituelle, ça veut dire que toute personne qui vit au monde aujourd'hui est mort spirituellement. Pas pour rien que les Écritures nous disent que le Seigneur, quand il est venu sur la terre dans Jean 3, il dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Parce que t'es mort. Éphésiens nous dit qu'on est mort spirituellement. L'être humain, avant d'avoir reçu la grâce de Dieu, il est mort spirituellement. Et il y a une troisième sorte de mort qui est introduite parce que c'était la mort éternelle. Si tu décèdes dans l'état où qu'une personne est sans avoir reçu la grâce du Seigneur, s'il décède dans cet état-là, il s'en va en enfer pour l'éternité. Si on se rend compte de ça vraiment, le problème, c'est quand on ne témoigne pas beaucoup, là, c'est parce qu'on ne se rend pas vraiment pleinement On côtoie des gens à longueur de journée qui sont dans un état qui n'ont pas reçu le pardon de Dieu, qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Et on agit si peu. Alors, peut-être ce que je reviens nous parler ce matin, la prière, mes amis, la prière, c'est ça qu'on a besoin. Moi, je suis convaincu que c'est le plus grand besoin de l'Église moderne aujourd'hui. Ça ne prie plus beaucoup. Alors qu'il y a eu des époques où il y a eu des personnes qui étaient vraiment des grands prières. On parle de certaines personnes, ils passaient de 2 à 3 heures par jour à prier. La prière, tout à l'heure, il faisait quelque chose, il parlait d'une difficulté. C'est vrai que la prière, il y a une difficulté à la prière. Il y a une lutte à prier, à vaincre ta chair, à vaincre ton désir de faire ce que la chair veut faire. Mais il y a un point de bascule dans la prière que les Écritures nous enseignent où la prière ne devient plus un fardeau, ne devient plus une difficulté, mais elle devient un délice. Et ça, ça existe pour le vrai. Lisez les biographies de grands hommes, de grandes femmes de prière. Et où qu'il se passe le bascule, je ne peux pas vous le dire. Mais on dirait que Dieu fait en sorte que, quand il t'a vu que tu cherchais à rentrer en contact avec lui et à avoir confiance en lui, il y a un point où qu'il se passe dans la prière où ce n'est plus un fardeau, mais ça devient un délice. Un délice, c'est que les gens qui sont là-dedans, il vient un temps que Dieu les bénit tellement profondément que là, ils ne veulent plus sortir de là-dedans. Ils prient puis ils n'arrêtent plus de prier parce que ce n'est pas juste une prière d'intercession, c'est une communion avec Dieu. Et quand tu arrives à ce point-là, bien sûr, la prière pour toi change complètement de dimension. Alors, on a besoin de retrouver de plus en plus de chrétiens qui vont atteindre ce point-là. Alors, ce qu'on a vu dans le verset 20, on a vu, on va voir la vie, on dit que, j'avais donné le titre de la sentence divine de mort jaillit la vie prophétisée. Dans le verset 20, « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » On n'a pas conscience, parfois, quand on lit les Écritures, de l'importance du nom, un nom, comme Ève, comme Adam, comme bien d'autres noms. Je vais vous lire ce que le nouveau dictionnaire biblique révisé et augmenté des éditions Emmaüs. Qu'est-ce qu'ils disent sous le mot « nom » Vous allez dans le dictionnaire, vous regardez le mot « nom », N-O-M. Puis vous allez voir que le nom, à l'époque des Écritures, surtout dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, mais plus particulièrement peut-être dans l'Ancien, et voici ce qu'il dit à la page 913. Son importance, et il parle de l'importance du nom, son importance. À l'époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation directe entre le nom et la personne ou la chose nommée. Le nom participe en quelque sorte à son essence qu'il a pour but de révéler. Autrement dit, le nom, dans l'Ancien Testament, a pour but de révéler ton essence, ta nature profonde, voyez-vous? Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on donne un nom. Moi, ils m'ont appelé Marcel. Pourquoi? Je demanderai à mon père et ma mère. Peut-être qu'ils ne savent même pas. Mais à cette époque-là, le nom voulait établir une relation entre qui tu es dans ta nature profonde. Ça, c'est important de réaliser pourquoi ici, il dit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève ». Alors, Genèse 2, 23. Si on va faire les liens, pourquoi l'importance du nom, il faut reculer un petit peu dans Genèse 2, 23. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, ou eau de mes os, et chair de ma chair, on l'appellera femme. » Voyez-vous, 2, 23, il l'appelle femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Pourquoi il l'a appelé comme ça? Parce qu'on sait, l'histoire nous dit qu'il avait été prise de l'homme, de la côte de l'homme, etc. Le nom hébreu qui traduit « femme » dans le verset 23, de 2-23, là, est « isha », qui veut dire « femme » au féminin, c'est-à-dire « homme » au féminin. C'était un être humain, mais de nature féminine. Après que le Seigneur eut annoncé prophétiquement la venue future du Messie, par la femme. Voyez-vous, la venue future du Messie, ça veut dire que Adam avait compris l'essence du message de Dieu de dire de Genèse 3:15. Il avait compris l'essence. Il avait compris l'essence et le sens de ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il a changé le nom de sa femme et changé le nom, je voulais vous le dire, à cette époque-là, changer un nom, c'était très, très important. Il l'a changé pour Ève, de l'hébreu Shava, qui signifie vie. Alors, de la femme sortirait la vie de Christ par la transmission des générations. Alors, il avait compris cela, et déjà en donnant le nom de Ève à sa femme, il comprenait que par la femme viendrait le Messie. Et on le sait, Marie est une femme, le Christ est venu par elle. Alors, il y a quelque chose de très profond dans ce verset-là qu'on ne voit pas nécessairement au premier abord. Pourtant, Adam aurait eu toutes les raisons de l'appeler mort. Il l'a accusé d'être responsable de son propre péché. Et à la lumière des jugements divins, il aurait pu donner libre cours à sa frustration en rattachant le nom de sa femme, en rattachant sa femme à l'idée de mort. Et là, ici, tout après que le Seigneur a dit dans Genèse 3:15, qui était pour donner l'envoi du Messie prophétiquement, il change le nom de sa femme et il l'appelle vie. Dans l'hébreu, Ève, Shava, ça veut dire vie. Alors, par la femme, Dieu permettrait l'arrivée du Messie. Par Marie, éventuellement, quelques siècles après. Là. Mais quand même, Dieu avait fait la promesse et il dit qu'il faisait les choses en son temps. Alors, il va lui rappeler, ça va rappeler sa destinée, elle est la mère de tous les vivants. Il vient aussi rétablir l'ordre que le Seigneur avait établi sur le couple au début. Donc, le malin avait tenté de détruire, et Dieu ici vient rétablir l'ordre. Le rôle de chef du mari, voulu par Dieu, se retrouve dans le contexte de l'espérance de l'Évangile qui met fin à la malédiction. Prophétisé aussi par son rôle, Satan s'est servi d'Ève pour faire rentrer la mort dans le monde. Remarquez la sagesse de Dieu. La mort est rentrée par Ève, la vie va arriver par Ève qui va devenir la mère des vivants. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans quand on s'arrête à méditer un petit peu sur comment Dieu agit. Alors, la propagation de la vie, Dieu a permis qu'elle va se perpétuer par Ève et toutes les générations qui sont venues après, jusqu'à Marie. Quand vous regardez Matthieu 1, Luc 2 ou 3, en tout cas, les généalogies dans les Écritures, c'est d'une importance capitale. Souvent, on va regarder je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous arrivez dans 1 Chronique, quand vous lisez votre Ancien Testament, vous arrivez dans 1 Chronique, aux alentours du chapitre 10, là, il y a, je prends comme 6 chapitres, où c'est juste des énumérations de noms. Des fois, tu as envie de te dire à toi-même, « Veux-tu bien me dire à quoi ça sert, ça? » Bien, ça sert à établir toutes les générations qu'il y a eues depuis Adam, les enfants qu'il y a eu, les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Ça a l'air long, là, mais c'est un des, peut-être, des chapitres les plus importants pour être capable de démontrer qu'on n'est pas l'évolution de millions et des milliards d'années, parce que c'est des générations qui se passaient de génération à l'autre. C'est important, c'est très important. Matthieu 1 et Luc aussi, quand on vous lisait, des fois on est porté à penser rapide parce que fils de, tu viens que tu dis, ben là, fils de. Là. Mais là, c'est important, c'est très important et c'est très riche de signification. Alors ici, on voit que Adam avait la foi dans la prophétie divine qu'il enverrait le Messie, Jésus-Christ, éventuellement, et que... Alors, il croit la promesse divine de l'envoi d'un futur Messie, et il l'exprime dans le fait qu'il donne un nom nouveau à sa femme. Avant, c'était tiré de l'homme. Maintenant, c'est la vie. Alors, la vie précisée, versets 21 à 23. Les versets 21 à 23 nous enseignent que Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève au désespoir, mais qu'ils sont placés dans une seconde probation et selon les termes divins. Quels sont ces termes-là? Pour l'être humain, de se sortir de son état de pécheur, il n'y a qu'une seule solution. C'est la foi en la promesse du Messie à venir pour l'Ancien Testament. Pour nous, c'est la foi en la, Messie du, en la foi du Messie venu. Il est déjà venu. Aussi, dans les versets 21 à 23, il y a une autre idée qui est exprimée là, qui est importante. C'est celle d'avoir le bon vêtement pour se présenter devant lui. Voyez-vous, il était tout nu. Il s'était cousu une petite ceinture avec une petite feuille de... Ouais, ça ne marche pas. D'ailleurs, il dit, ça ne marche pas ton habillement. Ça ne marche pas ta tentative de rentrer avec moi habillé comme ça. Il les a revêtus de peau. Pour revêtir un être humain de peau, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu as des peaux d'animaux. Donc, à quelque part, déjà prophétiquement, c'est une allusion au Messie qui se devait de mourir. Pour te revêtir. Quand on parle, des fois, on parle du salut, on dit le salut qu'on prend comme deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il est venu sur la terre pour subir le châtiment que tu aurais dû subir à ta place. L'enfer. Donc, il a subi l'équivalent des souffrances que tu aurais dû subir en enfer à ta place. Mais il y avait le deuxième aspect. Pour te présenter devant Dieu, il faut que tu aies accompli la loi, le décalogue, les 10 commandements, appelez-les comme vous voulez, à la perfection. Personne n'a jamais fait ça. Personne ne fera jamais ça. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place. Alors, la punition, c'est quelqu'un qui le prend à ta place. Puis les exigences divines de perfection, d'obéissance à la loi, il n'y a que Christ qui lui a fait ça. Alors, c'est important de réaliser, le vêtement symbolise le fait que il nous faut être... Tu sais, quand vous lisez le Nouveau Testament, il y en a un qui a eu des noces, puis il l'a jeté dehors parce qu'il n'y avait pas l'habit de noces. Alors, tout ça, c'est du symbolisme qui veut parler qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu si on n'a pas la robe de justice de Christ. La robe de justice de Christ, c'est par la foi, on croit que Jésus a accompli à la perfection le décalogue, les 10 commandements, la loi, qu'il n'a jamais manqué, même pas une seule fois. Ni dans sa pensée, ni dans ses paroles, ni dans ses actions, ni aucune omission, ni aucune faute secrète. Il n'en a jamais commis. Et la foi, c'est de croire que ce que Dieu exige pour moi, c'est un autre qui l'a fait. Et celui-là, c'est Christ. Et sa robe de justice, elle est blanche, immaculée, parfaite. Et quel bargain que Dieu nous fait dans la foi. La foi, la punition qui a aucun d'entre nous ne peut vraiment saisir ce que c'est que de vivre dans l'éternité, dans l'enfer. Les souffrances qui sont impliquées là-dedans, il n'y a aucune personne d'entre nous qui saisit pleinement. On comprend un peu, mais pas pleinement. Et en plus, qui peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'obéir à la loi, à la perfection durant toute ta vie, sans avoir manqué même pas une fois? Et l'Évangile, c'est que Christ a pris ta punition, ta foi, à ta place, puis le seul ce que le Seigneur te demande, c'est de croire. Crois à cela. Et ensuite, tout ce qu'il te demande aussi, c'est de croire que la justice que j'exigeais pour que tu vives à ma présence, il y a quelqu'un qui l'a faite, puis c'est un autre qui l'a faite, puis il l'a faite pour toi. C'est-tu un bargain extraordinaire? C'est plus qu'extraordinaire. On devrait tomber sur nos faces en adoration quand on entend ces choses-là. Si on comprendrait vraiment, là, je suis sûr qu'on tomberait sur nos faces en adoration pour la grandeur de ce que le Seigneur a fait. Alors, Adam et Ève laissent Dieu les revêtir. Cette action leur rappelle continuellement deux choses. Leur culpabilité, ils sont arrivés avec l'entrée du péché et sont des symboles de notre pauvreté, de notre infamie. Autrement dit, devant Dieu, on est des tout nus. On ne pourra pas se présenter, on ne se présentera pas devant un roi de la terre, devant un grand personnage de cette terre tout nu, hein? Mais on se présente encore beaucoup moins tout nu devant Dieu. Il faut avoir une robe de justice. Et c'est celle de Christ qui est parfaite. Et Dieu nous en revêt lorsqu'on a la foi. C'est-tu extraordinaire, ça? Mes amis, c'était tellement extraordinaire. Alors, rappelons-nous que comment Jésus était appelé quand il est venu sur la terre? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau, c'était encore, par rapport à l'Ancien Testament, il fallait que tu tues une bête et tout cela. Là, c'était vraiment une allusion que pour le salut, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui meure à ta place. Et c'est ça que l'agneau de Dieu. Alors quand on regarde la nécessité de rentrer en présence de Dieu habillé, on lit Apocalypse 3, les versets 17 et 18, où Dieu, où les Écritures nous parlent de l'Église de Laodicée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'Église de Laodicée, ce n'est pas celle que le Seigneur lui a donné d'être dans le dos. Là. Quand vous lisez l'Église de Laodicée, c'était la dernière et c'était une Église qui n'allait pas bien, autrement dit. Il dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Spirituellement, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la personne n'a pas encore compris qu'elle a besoin d'être vêtue de la robe de justice de Christ. Ils se disent chrétiens, mais regardez ce qu'il dit. La personne est dans l'Église, elle dit, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. » Et le Seigneur lui répond, « Tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. » C'est un gros jugement qu'il lui dit là. Après ça, il dit, verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Il n'est pas riche. « Que tu deviennes riche. » Et des vêtements blancs. Vêtements blancs, le symbole de la justice de Christ dont on est revêtu par la foi. « Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Et gardez bien le dernier verset aussi, c'est assez important. « Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Parce qu'il vient dire qu'il est aveugle. Mais dis-moi, je vais te donner un collier, tu vas mettre ça sur tes yeux, puis tu vas voir. Tu vas voir que tu es perdu, tu vas voir que tu es malheureux, que tu es malheureux, tu vas voir que tu es misérable, tu vas voir que tu es pauvre, tu vas voir que tu es nu. À quelque part, la nécessité qu'on soit habillé de la robe de justice de Christ est capitale dans le salut. Vous, Apocalypse 7, verset 14, je parle encore de cela. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Bizarre, hein? On blanchit, quand on trempe des vêtements dans un sang, ça vient-tu blanc? Mais pourquoi il dit ça, là? Parce que ça dit, ils ont lavé leurs robes. Autrement dit, nos robes sont crottées. Il n'y a que lorsqu'on les trempe dans le sang de Jésus qu'elles deviennent blanches pour Dieu. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 2 et 3, « Nous aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si, du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Revêtus de quoi? De Christ, la robe de justice de Christ. Alors, c'est vraiment un type de la justification, la question de la robe qu'on voit que Dieu les a revêtus d'une peau d'animaux. Si vous retournez un petit peu dans l'Ancien Testament, il y a un passage dans Zacharie, chapitre 3, versets 4 et 5. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alors, c'est vraiment des allusions à la justice de Christ. Ésaïe 61, verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème. » Comme la fiancée se part de ses joyaux. Et on a tout le passage de Luc 15, l'enfant prodigue qui revient. Et qu'est-ce qu'il fait, le père? Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers, pieds, etc. Voyez-vous le passage de Matthieu 22 aussi? Et il lui dit, le roi entra pour voir qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, « Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-le les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » des passages forts. On a besoin non seulement de savoir que Christ a pris notre punition, notre place, mais on a besoin de savoir aussi qu'il a accompli la loi à notre place. Et que c'est ça qui nous revêt. Parce que sinon, on serait tout nu et on serait sale. Alors là, quand, dans le verset 22, aussi, on voit la vie, le Seigneur protège, il nous protège contre nous-mêmes. L'Éternel 22 dit, l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa vie, de prendre de l'arbre, de vie, d'en manger, de vivre éternellement. » Alors ici, le mot « homme » suggère qu'Adam représente sa femme et souligne son rôle non seulement comme chef de famille, mais également comme chef de l'humanité. Alors, on va regarder le verset 23. « Et l'Éternel Dieu le chassa. » Alors après lui avoir dit « Il est devenu comme l'un de nous, empêchons-le maintenant. » Imaginez-vous d'être obligé de vivre toute ta vie dans un état de pécheur. Dieu a eu miséricorde en permettant que l'homme ne puisse pas vivre une vie éternelle dans un état de pécheur. Moi, on va vous dire, ben, franchement, je suis rendu à 70 ans, puis il y a des journées que je me dis, Seigneur, si tu veux me chercher, il n'y a aucun problème, je suis prêt. Je suis prêt, j'ai aucun problème. Je n'ai pas le goût de vivre encore 500 ans, 1000 ans, toute la douleur qu'on vit sur la terre. Non, j'ai le goût d'en sortir. Alors, dans la sanction qui est miséricordieuse, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Alors, le jardin d'Éden, c'était comme un sanctuaire dans lequel Dieu est spécialement présent par son pouvoir à donner la vie. Rien d'impur ne peut subsister dans cet environnement-là. Alors, le fait de le sortir, de ne pas permettre qu'il continue sa vie dans son état de pécheur, c'est vraiment une très grande bénédiction pour lui. Alors, la miséricorde divine s'exprime par le fait qu'ils ne sont pas expulsés du monde, mais seulement du jardin. Qu'ils ne sont pas envoyés directement en enfer comme les anges qui ont péché. Voyez-vous, même s'ils ont péché, Dieu aurait pu, immédiatement après le péché, les prendre toutes les deux et les envoyer en enfer. Voyez-vous, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, ça se dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il les réserve pour le jugement. » Voyez-vous, les anges n'ont pas eu de chance. Ils sont tombés, puis ont été jugés, puis c'est fini. L'être humain est tombé, mais Dieu permet que par sa grâce, on peut retrouver notre condition première, et plus que la retrouver, être mieux qu'avant. Parce qu'on est mieux, nous, comme chrétiens régénérés, ayant reçu la grâce de Dieu, que Adam et Ève avant leur chute. On est mieux. Parce qu'on reçoit des choses qu'eux n'avaient pas. Eux étaient... Parce que à partir du moment qu'on on appartient à Dieu, on lui appartient de façon irréversible, on ne peut plus se perdre. Alors qu'eux, ils étaient dans un état où ils pouvaient encore pécher. Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin, absolument, et plus, mais ils pouvaient pécher. Tandis que nous, à partir du moment qu'on sort de cette vie, on ne peut plus pécher. Donc, on a une condition qui est supérieure à celle qu'avait Adam. Dans le verset 24, on voit aussi que cette vie-là va être protégée parce qu'il dit « C'est ainsi qu'il chassa Adam. » Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, protégé vraiment avec puissance. Les chérubins, c'est les êtres angéliques qui participent à l'adoration et à la louange de Dieu. Par exemple, on a regardé la semaine dernière, que avant sa rébellion, Satan était un chérubin. Les chérubins, c'est les anges qui vivent directement dans la présence de Dieu et ils ont pour but vraiment de magnifier la sainteté de Dieu et sa puissance et c'est une de leurs responsabilités essentielles tout au long de la Bible. Il n'a pas mis n'importe qui là, à l'entrée pour dire « Vous ne rentrez plus ici. » Il a mis les anges les plus puissants. Alors, Outre les chants de louange qu'ils adressent à Dieu, ils ont également mission de rappeler la majesté et la gloire de Dieu. Alors, bien sûr, cette protection-là, c'est une protection qui est permanente. Le péché a dressé une barrière entre nous et Dieu et nous a chassés du lieu où le Seigneur a décidé de se révéler et qu'il appelle sa demeure. Le péché souille et rien de souillé ne peut entrer dans le ciel de Dieu. Il n'y aura plus désormais d'accès à la présence de Dieu excepté par la foi au Christ. C'était comme si ils avaient sorti du lieu où ils étaient parfaitement heureux et sans Christ, sans la foi en Jésus-Christ, ils avaient tout perdu. Le fait que Dieu les garde proches du jardin suggère qu'ils sont des prospects pour une réadmission à sa présence, mais à ses conditions à lui. La porte peut être réouverte. On le voit dans Luc 13, versets 23 à 25. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » C'est une question. Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Ça devrait nous faire frémir de peur. Parce que, je veux dire, à un moment donné, la porte étroite, c'est le Seigneur lui-même, il a dit que c'est lui la porte étroite. Jean, chapitre 10, versets 7 et 9. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Et il le répète une autre fois, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Quel beau passage! La porte, c'est Jésus-Christ. Alors, si on veut réentrer dans la présence de Dieu, vivre dans la joie du ciel avec tous ceux qui sont déjà là, les anges et les êtres humains qu'on a connus, qui sont des croyants, on va les revoir un jour. Quelqu'un qui me disait récemment, « J'aimerais ça parler à Abraham, Isaac et Jacob. » Bien, tu vas le faire. On va tous le faire. On va tous se rencontrer. On va avoir l'éternité. Là, le temps... On va durer pas le temps, il faut aller à mon ouvrage. On va avoir du temps plus qu'on est capable d'en gérer. Alors, très intéressant. Trois applications que je fais à partir du texte d'aujourd'hui. La première, louons le Seigneur pour son infinie miséricorde. Cette miséricorde se manifeste dans le fait qu'Adam comprend la portée de la promesse de Dieu dans Genèse 3:15. Il saisit qu'Ève sera mère et que par cette fonction qui lui est conservée, elle contribuera à la naissance future du Messie promis. C'est ça qui est dans le texte aujourd'hui. Deuxième application, adorons notre grand Dieu qui revêt lui-même le pécheur par le sacrifice sanglant dans l'image qu'il les a revêtus de peau. Les exigences divines pour vivre dans sa présence sont rencontrées par le Sauveur Jésus-Christ et nous ont été donnés par imputation. Imputation, ça veut dire mettre sur notre compte. On a un compte avec Dieu, on a beaucoup de dettes, puis ce qu'il nous demande d'exigence, on ne le rencontre pas. Fait que tout ça, c'est fait par imputation, ça veut dire qu'il met les mérites de Christ sur notre compte, comme si on l'avait fait nous-mêmes, ben, imaginez-vous, comme si vous auriez accompli la loi à la perfection vous-même, et la punition qui nous était due, il a accepté de la subir à notre place. Misère. Ou plutôt bonheur. Trois. La porte du ciel est actuellement fermée et gardée contre l'intrusion des pécheurs non réconciliés avec Dieu. On en a plein autour de nous. La seule possibilité d'entrer est de le faire par la porte. Qui est la porte?
Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Que sa personne et son œuvre soient louées à tout jamais. Exprimons quotidiennement notre joie, notre gratitude, nos louanges et notre adoration à Dieu et à Jésus-Christ. Amen. Amen.